En Californie, il y a un dénommé Camping, un type très âgé et un peu fêlé sur les bords, qui pendant plusieurs mois, à renfort de millions de dollars, a fait un gros tapage publicitaire pour annoncer que d'après sa compréhension des Écritures, la fin du monde allait commencer le 21 mai 2011. C'est un récidiviste parce qu'il a déjà fait le coup en 1994. Évidemment, il ne s'est rien passé. Qu'à cela ne tienne, il a revu sa copie, refait ses calculs, réglé sa montre eschatologique, et la nouvelle date est le 21 octobre 2011. C'est un nouveau fiasco, mais qui est aussi tragique, parce que ce camping fait du tort à Jésus-Christ. D'ailleurs, les athées ne manquent pas de profiter de ces fausses prophéties pour ridiculiser les croyants. Il y a toujours eu des fausses prédictions. Et il y en aura toujours, à la Camping, ce qui renforce l'opinion des gens du monde comme quoi il est inconcevable qu'un jour Dieu mettra fin à l'humanité. En fait, même certains fidèles à Jésus-Christ ont du mal à y croire. Pourtant, tout ce qui nous entoure, les grandes villes que les hommes ont construites, les complexes industriels, les grands centres commerciaux, tous les accomplissements de l'ingéniosité humaine, sont sous le jugement de Dieu, et un jour, tout cela sera réduit en cendres. Nous n'avons aucune idée quand ces destructions auront lieu, par contre, nous savons à peu près comment ça va se passer. Nous arrivons maintenant au chapitre 16 de l'Apocalypse, où les jugements décrits sont très proches de la seconde venue de Jésus. Les coupes de la colère de Dieu sont purement d'origine céleste. Ils ne proviennent ni de la stupidité ou cruauté humaine, ni des machinations du diable. Et comme ils se succèdent à un rythme soutenu, ils ne laissent aucun répit aux habitants de la terre. Comme il existe une grande similitude entre cette troisième série de jugements et celle des trompettes, qui est la deuxième, on peut se demander si, au lieu de se suivre, elles ne sont pas identiques. En effet, ces deux séries, les deux dernières, concernent la terre, la mer, les sources d'eau douce et le soleil. De plus, les jugements se produisent dans le même ordre et sont très similaires. La cinquième trompette mentionne des attaques de démons alors que le soleil et le ciel sont assombris, ce qui est semblable à la cinquième coupe, au cours de laquelle l'obscurité couvre la terre et des ulcères affligent les hommes. La sixième trompette fait intervenir le fleuve Euphrate, tandis que la sixième coupe l'assèche. Autant la septième trompette que la septième coupe annoncent que la tribulation touche à sa fin, et toutes deux déclenchent la destruction du monde par des éclairs, le tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Cependant, la comparaison entre la série des trompettes et celle des coupes révèle aussi des différences bien marquées. Dans les jugements des trompettes, environ un tiers de la terre ou du ciel est affecté, tandis que dans les jugements des coupes, les effets s'étendent sur la totalité de la terre et revêtent un caractère beaucoup plus grave et final, bien que certains châtiments ne visent que les impies qui ont la marque de la bête et certains cataclysmes ne détruisent la nature qu'en partie. Les quatre premières trompettes ne sont pas une attaque directe et personnelle contre les habitants de la terre, tandis qu'ils sont tourmentés dès la première coupe. Enfin, la lune et les étoiles ne sont pas concernées par le jugement des coupes, par contre la quatrième coupe, qui intensifie la chaleur du soleil, n'a aucun parallèle dans les jugements précédents. Au vu de ces considérations, il est préférable de considérer que les sept coupes sont un développement de la septième trompette, tout comme les sept trompettes sont une extension du septième sceau. Les trois séries de jugements apparaissent donc nichées les unes dans les autres, un peu comme des poupées russes. Avec la série des coupes, les châtiments de Dieu deviennent de plus en plus sévères. Ils sont généralisés et tendent vers un point culminant qui est la seconde venue de Jésus. Et, comme je l'ai déjà dit, ces jugements s'abattent l'un après l'autre en succession rapide sur un monde qui chancelle sans aucune pause. En réalité, il y en a bien une, mais elle est très brève, et c'est uniquement pour affirmer que les arrêts de Dieu sont conformes à la vérité et à la justice. Je commence maintenant à lire le chapitre 16. J'entendis une voix forte venant du temple dire aux sept anges, « Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère divine. » Verset 1. Au chapitre précédent, Jean a dit que la gloire et la puissance de Dieu remplirent le temple de fumée en sorte que personne ne put y pénétrer. Puisque le temple est rempli de la glorieuse présence de l'Éternel, la voix qui en sort ne peut être que la sienne ou celle de l'agneau. Cette voix forte rappelle une citation d'Ésaïe qui écrit « Écoutez ce tumulte s'élevant de la ville, cette clameur venant du temple. Il s'agit de la voix de l'Éternel qui fait payer ses ennemis comme ils l'ont mérité. » Depuis que Jésus a été déclaré digne d'ouvrir les sept sceaux qui fermaient le parchemin, qui symbolise le titre de propriété de la terre, c'est lui qui du haut des cieux mène les opérations sur terre et marche vers la victoire. Rien ne l'empêchera d'établir son règne, car le Père a remis tout jugement entre ses mains. Et parce que la puissance, la gloire et la majesté lui appartiennent, Dieu a donné l'ordre qui déclenche les derniers jugements. Les anges s'empressent d'obéir et déversent sans délai les coupes de la colère de Dieu sur terre. Le mot grec pour « forte » a donné « mégalo » en français. Il revient plusieurs fois dans ce chapitre où il est diversement traduit. On entendra à nouveau une voix forte. Les brûlures du soleil sont terribles. L'Euphrate est appelé un grand fleuve. Il est question du grand jour du Dieu Tout-Puissant, d'un violent tremblement de terre, de la grande ville, la grande Babylone, et enfin de grêlons énormes. Les jugements des coupes sont plus grands, plus sévères et plus intenses que tout ce qui a eu lieu jusqu'ici. Je continue le texte. Le premier des sept anges s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Verset 2. Comme je l'ai déjà dit, les coupes sont en fait des sous-coupes et l'ange ne verse pas son contenu petit à petit, mais le jette d'un seul coup. Les deux mots, traduits par « malin » et « douloureux », veulent tous deux dire « mauvais », mais pris ensemble, ils signifient « très grave » ou « incurable ». Les coupes de la colère de Dieu rappellent les jugements de l'Éternel contre l'Égypte, mais ils concernent le monde entier au lieu d'un seul pays. Cet ulcère correspond à la sixième plaie d'Égypte. À cette occasion, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Prenez à pleine main de la cendre d'un fourneau, et que Moïse la lance en l'air sous les yeux du Pharaon. Cette cendre se transformera en poussière qui se répandra sur toute l'Égypte. » Hommes et bêtes en seront couverts et elle provoquera dans tout le pays des éruptions évoluant en ulcères purulents. Un tel ulcère était aussi l'une des malédictions prévues par la loi de Moïse en cas de rébellion contre Dieu. Je lis le passage. L'Éternel vous frappera d'ulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses qui vous gagneront tout le corps, de la plante des pieds au sommet de la tête. Cette première coupe est dirigée contre tous ceux qui portent la marque de la bête, ce qui représente évidemment l'immense majorité des êtres humains. Les croyants encore en vie et qui essayent tant bien que mal de survivre bénéficient d'un répit car leurs persécuteurs ont soudainement de graves soucis de santé qui vont les occuper en priorité. Je continue le texte. Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer. Celle-ci devint comme le sang d'un mort et tous les êtres vivants de la mer périrent. Verset 3. Comme j'ai dit, les jugements des coupes sont particulièrement sévères à cause de leur étendue et de leurs effets cumulatifs. La deuxième coupe rappelle la première plaie d'Égypte où on lit que Aaron, le grand prêtre, leva le bâton et frappa l'eau du Nil. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang, les poissons périrent et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Le jugement de la seconde trompette a aussi transformé le tiers de la mer en sang, tuant le tiers des créatures marines et détruisant le tiers des navires. Mais la seconde coupe est plus sévère parce que tous les êtres vivants de la mer périrent, et comme les océans couvrent 70% de la planète, leur dévastation est catastrophique pour la faune et pour le commerce maritime qui est paralysé. Ce jugement ne veut pas nécessairement dire que les molécules d'eau se sont transformées en hémoglobine. Il se peut que ce soit une pollution qui ressemble à du sang épais et rouge sombre et qui a le même effet destructeur. Il s'agit peut-être du phénomène connu sous le nom de marée rouge qui détruit tous les poissons et empoisonne ceux qui mangent les crustacés contaminés. Cette pollution est due à des variétés d'algues planctoniques qui, dans certaines conditions mal connues, sécrètent des toxines. En 1949, une de ces marées rouges frappa les côtes de la Floride. L'eau fut d'abord jaune, puis vers le milieu de l'été, elle devint épaisse et visqueuse. Des centaines de kilomètres de plages étaient recouvertes de poissons en décomposition. Puis la marée rouge disparut, mais revint l'année suivante. La consommation de poissons contaminés par la marée produisait de graves symptômes causés par une toxine, comme je l'ai déjà dit. Une marée rouge étendue pourrait facilement empoisonner tous les océans et détruire tout ce qui vit, les poissons, les mammifères marins, les reptiles et toutes les espèces d'invertébrés. Une fois morts, ils contribuent à la toxicité de leur milieu et contaminent toutes les côtes du monde entier. Les plages sont recouvertes de carcasses en putréfaction et l'air marin rafraîchissant se transforme en effluves nauséabondes. Les océans, sources de vie, sont devenus sources de mort. La situation est alors exactement l'inverse de ce qu'elle était le cinquième jour de la création où il est dit que Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés selon leur sorte, et Dieu vit que c'était bon. Nous ne réalisons pas combien nous dépendons de Dieu. EDF, la Compagnie Générale des Eaux, le livreur de fioul ou leur équivalent, nous envoie des factures parce qu'ils nous ravitaillent en produits que nous consommons. Mais d'où proviennent les matières premières? C'est Dieu qui a créé la lumière, l'électricité, le pétrole, l'eau, l'air et tous les minéraux qui existent. C'est encore lui qui a donné l'intelligence aux hommes pour qu'ils découvrent comment harnacher ce qui se trouve dans la nature. Pourtant, Dieu ne m'a jamais rien demandé pour l'air que je respire, pour les rayons du soleil qui m'éclairent et me réconfortent pendant la journée, pour le vent qui me rafraîchit l'été, pour l'eau qui me désaltère, pour les produits pétroliers que je mets dans ma voiture et avec lesquels je me chauffe en hiver, il ne m'a envoyé aucune facture. Et de toute façon, je ne pourrai jamais les payer. Dieu qui a toujours été généreux et miséricordieux envers un monde qui le méprise, va finalement manifester sa colère et régler ses comptes. Je continue le texte. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources. Les eaux se changèrent en sang. Verset 4. La pression divine sur les habitants de la terre s'intensifie. Ce jugement rappelle la troisième trompette qui avait rendu amer comme l'absinthe le tiers des eaux douces du globe. La troisième coupe étend le jugement de la deuxième à toutes les sources d'eau douce. On a du mal à imaginer combien les gens vont souffrir de cette plaie. La seule eau potable qui reste est celle qui est en bouteille. Ceux qui en auront les moyens ou qui seront proches des sources de production pourront acheter du lait et d'autres boissons, ainsi que manger des fruits, mais ce seront des privilégiés. Les producteurs de fruits et légumes seront courtisés et deviendront millionnaires du jour au lendemain. Dans les villes, les magasins seront pris d'assaut et il y aura des scènes de pillage et de violence. Ce sera l'anarchie. Je continue. Alors j'entendis l'ange qui a autorité sur les eaux dire « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir ainsi fait justice. » Verset 5. C'est la dixième doxologie sur 14 que compte le livre de l'Apocalypse et c'est la deuxième fois que nous rencontrons l'expression « Toi qui es et qui étais ». La première fois, c'était suite à la sonnerie de la septième trompette. Alors, les 24 vieillards, qui représentent l'Église glorifiée dans le ciel, ont prononcé la huitième doxologie. Ils ont adoré Dieu en disant « Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. » On a déjà vu quatre anges qui sont préposés au vent et un qui est chargé du feu. Celui qui parle ici est responsable des sources d'eau douce, mais on ne sait pas trop ce que cela veut dire, parce que le fonctionnement du monde angélique nous échappe complètement. En tout cas, c'est en tant que chef du domaine frappé par le jugement qu'il prend la parole pour justifier l'action du Seigneur. Tout ce que Dieu fait est juste, et si je ne suis pas d'accord avec lui, c'est bien dommage, car qu'est-ce que je peux faire? Lever le poing au ciel? Mais à quoi ça sert? La seule solution que dicte la sagesse est de reconnaître que Dieu a toujours raison dans tout ce qu'il fait. Les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes, écrit le psalmiste. Je continue le texte. Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir ainsi fait justice, parce qu'ils ont versé le sang de ceux qui t'appartiennent et de tes prophètes. Tu leur as aussi donné à boire du sang. Ils reçoivent ce qu'ils méritent. Verset 6. L'ange rappelle deux principes. Le premier a été émis au début de l'humanité, issu de Noé. L'Éternel a dit « Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi, si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. » Le second principe déclare que Dieu venge les siens et ce droit n'appartient qu'à lui. L'apôtre Paul écrit « Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Je continue le texte. Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes arrêts sont conformes à la vérité et à la justice. » Verset 7. Ici, l'autel est peut-être personnifié, mais il est plus plausible de considérer qu'une voix en sort. Il s'agit de l'autel sous lequel on a rencontré des martyrs qu'on a entendu s'écrier « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre ?» et à leur demander compte de notre mort. Maintenant, ces martyrs vont être vengés, ainsi que tous ceux qui composent la foule immense, que Jean a vue un peu plus tard et que, dit-il, nul ne pouvait dénombrer, c'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmiers. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Je continue le texte. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Verset 8. Alors que les trois premiers anges ont versé leur coupe sur la terre, le quatrième la verse sur le soleil. Contrairement à la quatrième trompette, qui avait obscurci le tiers du ciel, y compris le soleil, ici ces rayons brûlent tous les hommes, ou plutôt ceux qui blasphèment Dieu, et qui donc portent aussi la marque de la bête, ce qui laisse supposer que les croyants sont épargnés. Il n'est pas dit si le soleil brûle parce que sa chaleur est en forte augmentation, ou si une des parties de l'atmosphère qui nous protège a été ôtée. Si c'est le soleil qui chauffe davantage, les calottes glaciaires fondent, ce qui va faire monter le niveau des océans et donc inonder toutes les régions côtières avec des pertes en vie humaine et des destructions considérables. Je continue le texte. Les hommes furent atteints de terribles brûlures et ils insultèrent Dieu qui a autorité sur ces fléaux, mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. Verset 9. Littéralement, ils blasphémèrent Dieu, ce qui est répété encore deux fois dans ce chapitre. On aurait pu penser que toutes ces plaies inciteraient les habitants de la terre à se repentir. Eh bien non, c'est exactement le contraire qui se passe. Les hommes s'endurcissent et lèvent le poing au ciel. Cette attitude suicidaire montre bien combien le cœur de l'homme est tordu et méchant. On peut réellement dire que l'homme a le diable au corps.